T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez hop, tu t'es retrouvé embarqué en garde à vue. En garde à vue. En garde à vue. En garde à vue. T'es pas prêt d'en sortir. T'es un peu trop bronzé, mais pas assez bien sapé. Des chômeurs au smicard, les flics t'ont classé.
Bonsoir, c'est Onde Noire, une émission présentée par Jacques
et Corinne sur l'actualité du polar.
Alors l'actualité du polar, ben, c'est comme tout le monde, on va vous souhaiter nos meilleurs voeux et surtout, surtout, plein de bons livres, parce que ça ouvre plein d'horizons et ça permet de connaître des tas et des tas de choses. Des livres noirs, mais aussi des romans policiers, et puis aussi plein de bonnes surprises dans toutes sortes de littérature. Alors on va commencer par une petite rubrique nouvelle, on va dire. C'est-à-dire que c'est une rubrique pour vous faire lire pas cher. Et on a fait un petit, une petite série de livres qui sont parus, la plupart du temps des rééditions, mais qui sont parus en poche. Ah, je vais y arriver. Donc on va commencer par la collection Point Seuil, qui est en train de faire un très 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 beau travail de réédition, et quelquefois même d'ailleurs d'originaux très intéressants. Alors on va commencer par des romans méditerranéens, qui nous avaient beaucoup plu l'année dernière. C'est « Les requins de Trieste » de Veit Enichen, qui a été publié l'année dernière chez Seuil Policier. C'est un roman qui se passe donc, comme son nom l'indique, « Les requins de Trieste » à
Trieste,
et où se situent énormément actuellement de trafics internationaux. Donc c'est un livre très intéressant avec un commissaire plutôt réduit, ce qui est assez rare. Alors par contre, on avait un petit peu inversé le sens de l'émission parce que la personne qu'on devait avoir en direct n'était pas tout à fait prête, mais je crois la technique, notre technicien favori est fantastique,
nous fait signe
que Thierry Criffaut est en ligne. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Corinne.
Vous êtes parmi nous et c'est très gentil, merci de vous joindre à nous pour parler de deux livres qui sont sortis en septembre. Donc le premier, Paternel à mort, sorti aux éditions du Masque.
Oui.
Et le deuxième, Flambeur, aux éditions du Passage.
Tout à fait.
Mais on va situer d'abord un petit peu le personnage de l'écrivain. Donc vous écrivez depuis à peu près 20 ans, c'est ça ?
Mon premier bouquin, Toile de fond, qui a été réédité au Masque en 2005, est sorti en 84. Donc ça fait,
une bonne vingtaine d'années, on ne va pas se vieillir. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une prédilection pour le noir intense ?
Oui, en fait, moi, c'est les personnages en situation de crise. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté par rapport au fait que je sois publié dans des collections policières, avec tous les codes et tous les clichés qu'il y a par rapport donc au polar, mais moi je fais plus du noir, c'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse, c'est les personnages qui vont pas bien, qui sont en quête d'une respectabilité, qui ont des doubles vies, qui vont pas bien, quoi. Donc c'est le noir, quoi.
Voilà, alors en fait ça rejoint un petit peu la deuxième question que j'avais préparée, c'est-à-dire que j'ai cherché un petit peu, avant de parler plus particulièrement de ces deux livres, d'une idée générale, d'une sorte de fil conducteur qu'on retrouverait dans beaucoup de vos livres. Moi voilà comment j'ai un petit peu trouvé l'idée, c'est en fait ce que vous aimez décrire, c'est des gens ordinaires, tout à fait qu'on croise dans la rue, mais qui vont se marginaliser par passion, par amour, et qui vont donc plonger en enfer. Est-ce que ça peut être une...
Oui, il se marginalise par passion, par amour, il se marginalise parce qu'ils sont peut-être la conviction, le sentiment qu'ils sont pas comme tout le monde. Donc là je pense à le personnage de Béné dans J'aime pas les titres qui couchent avec maman. Ils ont des espèces d'aspirations qui sont peut-être pas celles de tout le monde, ce qui fait que ils se sentent exclus, ils se sentent pas dans la marche des autres, ce qui fait que petit à petit ils vont transgresser,
ils vont dériver et transgresser, voilà. Passer au-delà du visible, on peut dire un petit peu.
Voilà.
Eh ben justement, dans Paternelle à mort, alors vous parlez d'exclus, mais au départ, le personnage principal, ce père dans Flambeur à mort, il n'est pas du tout exclu, au contraire,
alors c'est un bourgeois bien installé. Flambeur à mort.
Ah, bah oui.
Oui, oui, Paternelle
dans
à mort.
Paternelle à mort.
Oui, oui. Oui, ben c'est, en fait, c'est quelqu'un qui a toutes les apparences de, qui a toutes les apparences d'un type bien. Et moi, j'aime bien une phrase qui dit que les gens ne sont jamais ce qu'on croit qu'ils sont. Donc, il y a toutes les apparences, il y a tout ce, voilà, tout ce que les gens cachent. Et lui, il cache quelque chose, c'est-à-dire que il a quelque chose en lui qui le mine, qui le ronge. C'est sa fille qui devient une femme et qui s'en va. Et ça, il supporte pas. Il supporte pas parce que c'est pour lui la mort, c'est la mort de la jeunesse, de l'insouciance, de la virginité, de la naïveté. Et son bien le plus précieux, sa fille, s'en va.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'explorer ces sentiments filiaux? C'est-à-dire entre un père et une fille, on va pas tomber dans les clichés freudiens, mais c'est vrai que là on va aller jusqu'au gouffre.
Oui.
Mais dès le début, vous avez un passage où il parle. Ça commence par ma fille, ma toute petite fille. C'est un acte d'amour. C'est des paroles d'amour absolument fantastiques. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de parler de ce sujet?
Bah d'abord c'est pas un livre sur l'inceste, c'est pas parce que il supporte pas qu'on la désire qu'il la désire lui, premièrement. Deuxièmement, comment naissent les histoires et les sujets, je pense que c'est une longue histoire. Moi j'ai pas de fille, j'ai un fils. J'aime bien essayer d'aller dans des justement dans des équations, c'est-à-dire personnages en situation de crise. Bon, on sait que le rapport père-fille est un rapport assez, pour la plupart du temps, assez privilégié. Les pères sont pour leurs filles des espèces de...
Mais il y a une protection quand même.
Oui, et puis les filles...
Pères connaissent les hommes.
Oui, voilà, les pères connaissent les hommes, et puis... Pour les filles, les pères, c'est des princes charmants, c'est des héros, c'est des rois. Enfin voilà, il y a tout ça. Et on sait qu'à l'âge de la puberté, ça bascule. C'est-à-dire que les filles ont le corps qui se transforme, deviennent des femmes, etc. Et dans la tête d'un père qui se comporte, comme on dit juridiquement, en bon père de famille, c'est normal qu'il se fasse des petits soucis quand elle sort la première fois. C'est normal qu'il pose des questions quand elle sort la première fois, et puis qu'il se pose quelques questions quand elle rentre un peu plus tard. Mais tout ça est dans la bonne marche des choses, si j'ose dire. C'est la marche du temps, et les gens normaux et les gens bien font...
Qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, les gens normaux et les gens bien.
Voilà, qui ne sont pas toujours les mêmes, font avec ça. Mais lui, il supporte pas. Le problème de ce livre-là, le personnage qui a un problème, c'est lui. Il a un problème avec les femmes, avec la sexualité, puisqu'il y a d'autres épisodes aussi avec sa femme et avec une jeune femme qu'il courtise aussi. Donc voilà, lui considère que la sexualité est quelque chose de dégradant et souillant pour les femmes. Et donc, à partir de là, il ne supporte pas que sa fille subisse, voilà, qu'elle subisse ses assauts, qu'elle subisse l'homme, qu'elle subisse la virilité, qu'elle subisse toutes les positions, etc. Donc il va au bout de ce dérèglement.
Oui, donc en fait tout va basculer le jour où sa fille Sophie lui annonce qu'elle va s'installer avec son compagnon.
Voilà.
Là, il va partir à la dérive.
Voilà.
Il va partir. D'abord, il va déjà sortir toutes les nuits pour épier sa fille.
Oui.
C'est un sentiment de jalousie poussé à l'extrême. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces situations vraiment poussées à l'extrême? Est-ce que c'est vraiment l'histoire ou le jeu littéraire finalement, la création de ce jeu littéraire?
C'est essayer, comme dans chacun des livres et avec chacun des personnages, aussi comment dire extrême soit-il, c'est essayer de donner une vérité, une vraisemblance psychologique, une crédibilité à ce dérèglement. c'est ça qui m'intéresse, c'est essayer de donner vie à comment dire, cette idée que j'ai eue, et encore une fois, à ce personnage dans une situation de crise, quoi. C'est ça qui m'intéresse, essayer de faire vivre des gens, donc sans comment dire, les juger. Dans chacun de mes livres, je juge pas les personnages, quoique pour celui-là, il y a un jugement, mais c'est pas moi qui juge, c'est lui-même qui juge, puisqu'il y a une petite construction où il y a en fait sa conscience. C'est ça, quand il y a une espèce de, de dialogue et de chant contre chant avec, avec sa conscience. Mais donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer d'aller au bout avec avec les mots, avec un livre, avec la construction, d'aller au bout, une espèce de, encore une fois, de composition d'un d'un personnage qui vit pas bien, quoi.
C'est le moins qu'on puisse dire. Donc justement, enfin, on a retrouvé ça dans beaucoup de vos livres, en particulier dans un précédent qu'on avait vraiment beaucoup aimé, j'aime pas les types qui couchent avec maman. Où là, il y a les relations, entre autres une relation très particulière, mais c'est une mère et une fille. Oui. Donc on a l'impression que vous déclinez cette filiation un petit peu, vous prenez un petit peu ce thème.
Oui, c'est vrai que sur
est-ce une coïncidence totale?
Oui, c'est une coïncidence. C'est vrai que sur les deux avant-derniers livres, c'est ça. Bon, maintenant je vais pas décliner sur les rapports grand-père. Grand-père-grand-mère,
ça aurait été au deuxième degré, quand même.
Voilà, ou oncle et nièce, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tout ce qui se dit pas et toutes les apparences qui sont que les apparences qui m'intéressent. Donc la famille, les liens, et puis aussi la sexualité, l'intime. Sont des sujets assez tabous au sein d'une famille. C'est vrai que mis à part, c'est la première fois que je vais le citer, mis à part dans la chanson de Michel Sardou, vous savez, quand il dit je n'aurais jamais imaginé que ma mère ait pu faire l'amour avant d'avoir vu cette fille aux yeux clairs et aux seins lourds.
Oh là là, on voilà, va vous prendre comme spécialiste
de mémoire, alors que je suis plus rock et blues, mais bon là j'ai...
Oui.
donc en fait voilà, c'est vrai que la sexualité au sein d'une famille, des parents, des enfants, tout ça c'est assez tabou. Et moi j'aime bien aller là où on, je veux dire, c'est pas permis, sans pour autant faire du scabreux, mais essayer de lever le voile, si j'ose dire, sur et encore une fois de donner une espèce de lumière et de vérité sur des cas particuliers, parce que bien évidemment les dans les deux cas, que ce soit j'aime pas les types qui couchent avec maman ou paternel
à mort,
je mets une focale, un coup de projecteur sur des cas particuliers. Donc essayer de voir comment ça peut se passer dans le cas où un père ne justement fait semblant que ça se passe bien, mais dans sa tête de le déranger, ça se passe pas bien du tout.
Ça se passe bien, pas bien du tout. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce qui est très important dans vos livres, parce que dans ceux-là, c'est important, mais c'est vrai, depuis qu'on vous connaît, c'est le style, l'écriture. Alors, ici, une espèce une construction narrative très particulière avec une alternance, enfin, pas tout à fait alternance, mais des chapitres où le père se raconte, essaye de plonger dans ses sentiments pour presque se justifier. Et là, petit compliment. On se demande toujours comment vous arrivez à trouver les mots aussi justes pour décrire les sentiments des êtres humains. Ça,
merci,
c'est
beaucoup.
Une véritable réussite. Et puis, une petite nouveauté, comme vous avez dit tout à l'heure, presque un tout début de jugement avec une sorte de Jiminy Cricket.
Oui.
Une conscience. Pourquoi
oui,
avoir
ça.
Voulu rajouter ça dans ce livre?
Parce qu'en fait, j'avais commencé le style à la narration à la deuxième personne. Donc, c'est « tu ». Tu as fait ceci, tu as fait cela, souviens-toi quand tu étais rue Saint-Denis, etc. Et j'aime bien le tu, parce que le tu, c'est un gros plan, c'est comme si on le montrait du doigt, ou quelqu'un lui disait tu as fait ceci, cela, ou comme s'il était devant une glace, devant sa propre image. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et après, j'ai eu, et je sais pas pourquoi, je me suis dit peut-être d'aller plus profondément dans ce tu, essayer de donner une justification à ce tu. Et j'ai eu, très tard, une fois que le livre était presque fini, j'ai eu comment dire cette idée de ce prologue. D'ailleurs, il y a un prologue et il n'y a pas d'épilogue. le prologue à la première personne du jeu, qui est en fait sa conscience, qui est lui dans le bon sens du terme, qui est lui en fait sans ses défauts, sans son dérèglement, et qui aussi qu'on retrouve par moments dans le livre et qui le juge et qui lui dit tu as fait ça mais tu ne vas pas faire ça, c'est pas possible. Et je pense que tout ce temps qu'on est, il y a des moments où on se voit en train soit d'avoir des mauvaises pensées, soit en train d'avoir des mauvaises idées par rapport à la femme de son voisin, ou etc., etc. Donc on s'est tous surpris à avoir des pensées ou être en train de faire des actes qui, pensées et actes qui ne seraient pas dans le bon sens, si j'ose dire. Et on sait qu'on est en train de transgresser, même si c'est pas des choses, si c'est des choses pas très très importantes ou des pensées pas très très finalement qui sont pas très bien, mais finalement ça porte pas tellement à conséquence. On sait qu'on devrait pas le faire, mais on le fait quand même. C'est plus fort que nous, on le fait quand même. Donc voilà, j'aimais bien ces espèces de champ contre champ avec la bonne conscience et finalement l'être humain avec tout ce qui peut avoir à l'intérieur de noir et de sombre et qui va au bout, comment dire, d'un engagement aussi sombre soit-il.
Au niveau littéraire, moi, j'avais pensé aussi, en dehors de ce thème-là, un petit peu une construction, un peu comme le théâtre grec, où il va y avoir le cœur
et le coryphée qui va
reprendre le héros qui est sur la scène derrière. Et j'avais l'impression d'avoir vraiment comme des images et quelque chose... De très très immense comme horizon, parce que ça permettait donc un recul par rapport à l'acte de ce personnage. Alors le temps file vite, je vais poser une question qui a un peu plus rien à voir, mais je sais que c'est très très important dans votre style, c'est quelque chose que je ressens particulièrement. Oui. Et la poésie dans tout ça. Particulièrement. Oui. Et la poésie dans tout ça.
Et la poésie dans tout ça. Ben, c'est vrai qu'en fait j'ai commencé par des poèmes. Et c'est vrai que si quand on pose la question quels sont vos pères en littérature à certains de mes confrères, ils citent des grands auteurs, et moi je cite toujours Parolier pour les chansons. Ça veut dire que...
On voit que vous connaissez beaucoup de chansons par cœur, d'ailleurs.
Voilà, je suis désolé
pour Michel Sardou, c'est pas grave. Sardou.
Mais j'aime les mots, j'aime jouer avec les mots, j'aime le son des mots, jouer avec le sens et le son. Et c'est vrai qu'en poésie, par exemple, et dans les paroles de chansons et dans les dialogues, on peut jouer avec les mots, on peut se permettre des mots d'auteur et donc Prévert, Janson, etc. C'est vrai qu'en littérature, c'est pas très bien vu. C'est pas très bien vu les jeux sur les mots, etc. Moi, je prends des risques. Je suis comme ça. J'écris des mots je pense que je décris plus que j'écris, et donc les mots sont des outils, les mots sont la matière première, et le son, et les grandes phrases, et les virgules, et les digressions, tout ça, je me sens bien à l'intérieur de ça.
Les lecteurs aussi. Alors, le temps file vite. Une dernière question, en fait, sur Flambeur.
Oui.
Votre autre roman qui est sorti en septembre. Donc, c'est un personnage qui sourit à cause de son amour pour le jeu.
Oui. C'est plus qu'un amour, c'est une passion.
C'est une passion pour le jeu, donc qui va finalement le décaler totalement par rapport aux autres êtres humains qui l'entourent, et par rapport à l'humanité. Mmh. Et une dernière question qui revient à l'ensemble de vos livres, est-ce que finalement le thème le plus exploré, c'est pas la solitude ? Parce que cet homme, le flambeur, il est seul finalement.
Oui. Tous ces personnages sont... Tous ces personnages sont en marge, que ce soit une marginalité financière dans Paria, que ce soit Kouski qui a plein de fric mais qui est seul. Oui, c'est tous mes personnages.
Obsession elle,
ils sont tous seuls. C'est la solitude, c'est la quête de l'autre, c'est la quête du paradis. Mais tout ça, c'est tout très difficile. C'est très difficile de vivre avec les autres. C'est très difficile d'être un amant, un mari, un ami. Donc voilà, c'est ça qui... Alors peut-être que je suis mon propre comment dire, laboratoire, et que j'ai à l'intérieur en moi toutes les palettes de l'être humain, du soleil jusqu'aux ténèbres.
Voilà, c'est voilà. Un petit peu, c'était, ça allait être ma conclusion, voilà. De dire c'était ce côté de la solitude de l'être humain, c'était le côté très noir qui est le plus une des côtés les plus intéressants à explorer dans les romans et dans vos romans.
Merci beaucoup.
Thierry Criffaut, merci beaucoup.
Merci,
je
Corinne.
Rappellerai dans la deuxième partie d'émission les deux titres avec les éditeurs et tous les références. Et encore bravo et continuez à nous régaler.
Merci Corinne, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.